Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce studio de Radio Foot International sur RFI, la radio mondiale. Avec au menu de nos débats du jour, eh bien, ce mondial des clubs aux États-Unis et trois équipes européennes qui passent en huitième de finale. Chelsea a renvoyé l'espérance à Tunis. Le Benfica a battu pour la première fois le Bayern et vole aux Munichois leur première place, bousculant le tableau de la prochaine phase éliminatoire. La chute d'un grand club français, l'Olympique Lyonnais, est relégué en deuxième division. Son propriétaire américain, John Textor, voit sa gestion financière hasardeuse sévèrement sanctionnée. Est-il le fossoyeur d'un club qui joue en Ligue 1 depuis 36 ans ? En tout cas, le monde du foot hexagonal est sous le choc. Eux ne seront jamais sanctionnés pour leur gestion financière. Et ce serait même leur fierté, car l'AS Velasca, club de Milan, évoluant en 9e division, pratique le football loisir, associant son équipe d'amateurs à des artistes de tout horizon, et pas seulement balle au pied. Une incroyable épopée qui fêtera samedi prochain ses 10 ans. Et le président fondateur, comme on dit sur RFI, c'est pas toujours positif, mais là ça l'est. Ô combien. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour ou buongiorno, Wolfgang Natlasen.
Buongiorno.
Mais je sais que vous parlez très bien français très et bien. Que c'est parfait pour Radio Foot. Vous allez nous raconter cette incroyable histoire, mais vous êtes un habitué de l'émission. On vous suit depuis plusieurs années,
voilà, ouais,
grâce notamment à Matteo Cioffi. Invité dans ce studio, autre à vos côtés, disons, il y a Patrick Juillard. Bonjour Patrick.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Un peu triste pour l'espérance,
n'est-ce pas ? Et malheureusement, c'est plutôt la désespérance aujourd'hui.
Oui, bon, mais c'est compliqué pour certaines équipes ou certains continents. Sheriff Guémour de SoFoot, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là à vos côtés. Étienne Moati, bonjour Étienne.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci de venir et revenir dans cette émission. Et puis notre collègue, lui, il suffit de monter un ou deux étages pour être avec nous. Bonjour Marco Martins.
Boa tarde,
tout bien?
Ça va. Depuis hier soir, soulagé.
Ouais. Bon, Benfica a fait des siennes et nous en parlerons grâce à vous. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno est à la réalisation Radio Foot. C'est parti.
Est en Ligue 2, décision de la DNCG après examen du dossier.
Il y a un déficit abyssal, paraît-il. Plus des salaires donnés aux joueurs qui sont monstrueux.
Il ne faut pas compter sur John Textor pour vous donner des infos fiables, puisque avec lui, tout va toujours bien.
Le président américain de l'Olympique Lyonnais devait convaincre le gendarme financier du football français.
Finalement, il n'y a pas besoin d'être expert comptable. Quand vous voyez les comptes de Textor, vous avez compris que finalement, ils ont plus d'argent que ce qu'ils doivent. Donc, ils sont tranquilles. Ah, mais bizarrement, ça ne marche pas.
Ce sont ceux qui ont acheté l'OL, qui en ont fait n'importe quoi et qui l'ont massacré.
La famille du football lyonnais serrait les rangs cet après-midi, réunie dans la petite église de Fontaine-sur-Saône. Jean-Michel Aulas, l'ancien président, accompagné de très nombreux anciens joueurs de l'OL comme Karim Benzema, tous venus pour accompagner les obsèques de Bernard Lacombe, l'ancien joueur et dirigeant emblématique de ce club, est décédé la semaine dernière à l'âge de 72 ans. Le groupe des supporters des Bad Gones était là lui aussi. Ils avaient déroulé cette banderole sur le passage du cercueil. Légende lyonnaise éternelle, adieu, monsieur Bernard Lacombe. Tout à leur deuil depuis une semaine, tout à son deuil, le football lyonnais a reçu hier un nouveau coup sur la tête, la relégation de l'équipe phare en Ligue 2. Une sanction pour mauvaise gestion et un déficit abyssal qui dépasserait 500 millions d'euros. L'ancien gardien de ses années de champion de France, Grégory Coupé, était donc doublement ému cet après-midi à Fontaine-sur-Saône.
Je crois qu'elle ne peut pas plus mal tomber, quelque part. Maintenant, je ne vais pas commenter ce que c'est d'être un dirigeant, mais j'avoue que je pense que je suis, comme tous les Lyonnais, hyper... Il est hyper inquiet pour la situation du club. Mais aujourd'hui, on parle de Bernard avant tout et on va l'accompagner une dernière fois.
Cette sanction, donc, qui a provoqué bien des larmes de tristesse, mais sans doute aussi de rage. L'Américain John Textor avait racheté ce club à Jean-Michel Aulas, a racheté d'ailleurs, en fin d'année 2022. Et il était surveillé par la Direction nationale de contrôle et de gestion des clubs professionnels de foot, la fameuse DNCG que l'on surnomme aussi le gendarme du foot. Cette DNCG avait déjà avancé cette sanction le 15 novembre dernier. A-t-elle été prise ou pas au sérieux ? C'est Étienne Moati, on a envie de se dire comment en est-on arrivé là avec toutes ces sonnettes d'alarme, toutes ces lumières rouges quand même qui entouraient l'OL. Parce que depuis novembre dernier, on disait attention et peut-être que l'année prochaine, on y est.
Mais écoutez, il y a peut-être eu beaucoup de sonnettes d'alarme, mais je pense que John Textor, il est un peu sourd. Il y a peut-être beaucoup de lumières rouges, il doit être un peu aveugle. Et surtout, en fait, quand... On parle avec John Textor, ce qui m'est arrivé quelques fois, il est quand même assez particulier. Et les gens de la DNCG, ils ont beaucoup eu de mal à communiquer avec lui, à lui expliquer quelles étaient les règles financières du football français. Au début, il prenait ça vraiment extrêmement à la légère. Il essayait même d'expliquer à tout le monde comment ça devait fonctionner. Mais bon, c'était lui qui arrivait quand même, c'était le dernier arrivé. Donc, ce n'est pas lui qui allait fixer les règles. Et donc, il s'y est pris très tard. Et finalement, il a réussi un peu comme un prestidigitateur pendant les dernières semaines de donner l'illusion en fait, qu'il pouvait passer, que ça pouvait marcher, que les dernières ventes de joueurs, la vente des parts de Crystal Palace, tout ça pouvait donner le sentiment qu'il pouvait repartir pour un tour. Ben non, puisqu'il y avait eu une relégation et qu'il fallait qu'il en fasse davantage, et ben il n'en a pas fait assez.
Mmh. Chéri Guémour, cette relégation, c'est dû à un état des finances catastrophiques apparemment, parce que la DNCG a accès à des documents. Mais surtout, c'est peut-être aussi ce dilettantisme ou ce manque de sérieux de John Textor, finalement, on ne peut plus lui faire confiance.
C'est la conclusion à laquelle est arrivée la DNCG, qui a été très patiente, qui a été très... elle a été critiquée d'ailleurs pour ça, comme le disait Étienne, il y a eu... C'était cet hiver, hein, c'est ça, avec la menace d'une rétrogradation.
Oui, c'était en novembre.
Voilà, c'était novembre. En novembre. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, on est arrivé avec une sorte d'aventurier du football comme il y en a beaucoup. Alors, il n'a jamais racheté le club. On va rappeler d'abord qu'il a emprunté auprès d'un fonds américain, Ares, à peu près 415 millions de dollars, hein, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Donc déjà, le club ne lui appartenait pas. On croit toujours qu'il l'a acheté avec son argent, pas du tout.
C'est mais d'ailleurs, on se souvient du rachat. Ça avait été déjà un moment un peu inquiétant, parce que la vente a été repoussée plusieurs fois, parce que justement, cet argent n'arrivait pas pour payer Aulas.
D'où aussi, à mon avis, on n'en parle pas beaucoup, d'où aussi la responsabilité de Jean-Michel Aulas. Parce qu'il y a un moment, il devait savoir que Textor, quelque part, n'était pas quelqu'un de très solvable.
Ou fiable.
De fiable, de très solvable. Or, il a dit, je dirais presque qu'il a donné sa caution morale à cette vente, Jean-Michel Aulas.
Je ne suis pas complètement d'accord avec ça, ça ne correspond pas complètement à la réalité, parce qu'en fait, Jean-Michel Aulas, lui, ne souhaitait pas vendre. C'était ses actionnaires minoritaires, donc en l'occurrence Pathé et un fonds chinois, qui ont voulu donc sortir du club, et donc il a été obligé de vendre, et il s'est retrouvé dans cette obligation-là. Et en plus...
Textor, il le connaissait quand même. Ça.
Mais Textor, ce n'était pas le choix une fois qu'il a été obligé de vendre. Ouais. Il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites.
Il est resté président 3 ans, et au bout de 6 mois, ils l'ont sorti.
Pas celle de Textor qui avait sa préférence. En plus, comme vient de le dire Patrick, il devait rester 3 ans. Finalement, il est resté 3 semaines, on va dire. Ouais. Voilà. Mais donc, Aulas, pour le coup, avec lequel je m'empaille depuis 30 ans et qui fait plein de choses qui, parfois, sont pas forcément les meilleures, pour le coup, il n'a pas une immense responsabilité dans ce dossier.
Non, parce qu'il y a des banques, d'accord, quand même, qui sont garantes de ce rachat, ou en tout cas de la transaction.
D'accord.
Vous voulez terminer ?
Oui, c'est juste pour dire qu'en fait, il ne l'a jamais acheté avec ses fonds propres. À partir de là, il est lourdement endetté auprès du fonds Ares, à un taux de 13% par an. Donc, il est déjà dans une course contre la montre. Et à partir de là, il se perd dans son groupe, parce que bon, on parle aussi de la multipropriété.
Et là, c'est un autre niveau de complexité. En Belgique, Brésil, il avait en Angleterre.
Et là, on arrive à la fameuse pyramide de Ponzi, c'est-à-dire je prends de l'argent pour rééquilibrer là.
C'est ça.
Et c'est sans fin. Et la DNCG a dit stop.
Patrick, il y a une chose, c'est qu'on a vu aussi, par exemple, ce truc qui, quand même, on n'est pas aveugle. Quand il fait venir le meilleur joueur de Botafogo, l'Argentin...
Almeida,
au mercato d'hiver, et il dit c'est gratuit. Alors, on sait qu'il est propriétaire de Botafogo.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, dans la logique de John Textor, et c'est ce qui n'est pas passé avec la DNCG, c'est qu'il se dit... les profits des uns peuvent équilibrer les pertes des autres. C'est-à-dire que si Botafogo gagne de l'argent, si Botafogo a des joueurs,
je le mets dans Lyon.
A des joueurs qui valent cher, je les vends et l'argent va à Lyon. La DNC, peut-être que au final, ça
peut
c'est
toujours la même
équilibrer.
Caisse.
Le problème, c'est que la DNCG, sa logique à elle, c'est que le club doit être en lui-même, avec ses fonds propres,
son identité,
équilibré en fait. Ouais. Et donc si là,
en
par
France,
exemple, dans
le club en France, en tout cas.
Voilà, dans le paquet entre guillemets que Textor a présenté hier, il y avait des ventes de joueurs de Botafogo qui allaient rapporter X millions d'euros et qui serviraient à renflouer l'OL. La DNCG a dit non, c'est Botafogo, l'OL c'est l'OL.
Comme la revente de ses parts à Crystal Palace.
Et en plus, moi pour moi, alors là on va arriver plus sur le sportif parce que ça joue aussi.
Évidemment.
La non-qualification de l'OL pour la Ligue des Champions, ça fait entre 60 et 80 millions d'euros en moins déjà.
L'élimination avant la finale de Ligue Europa.
Aussi. Et puis, alors, on dit les ventes de joueurs. Ils ont vendu Cherki 42 millions. La belle affaire. Mais il n'y avait pas
C'est une belle affaire.
Oui, OK. Mais ils n'avaient pas qu'un joueur coté, Lyon. Pourquoi Miko Tadze n'a pas été vendu? Pourquoi Fofana n'a pas été vendu?
Parce que pour l'instant, ça commence, là, le mercato. Ah,
d'accord, mais ils n'ont pas cherché à les vendre. Parce qu'en fait, ils étaient certains que la DNCG serait séduite par la richesse de ses autres clubs, par aussi la vente de Crystal Palace, qui n'est même pas encore validée par la Premier League et dont on ne sait pas combien va aller à l'OL. Parce qu'il a aussi d'autres choses à renflouer que l'OL dans son groupe. Il est endetté de partout, ce monsieur.
Ben oui.
Au final, ce qui est possible, c'est que Arès vire Textor et charge une autre personne d'essayer de raccommoder ce qu'il y a à raccommoder. Quoi.
Comme le font Elliott avec Milan.
Peut-être.
Il a rangé son cheval et son chapeau de cow-boy, apparemment.
À mon avis, ouais, ils sont au vestiaire. Là.
Alors, autour du club, évidemment, c'est la grande affliction. Évidemment, tous les anciens joueurs, choqués par cette relégation soudaine, même si, quand on écoute Sidney Govou ou d'autres joueurs, ils sentaient très bien. Ben oui, et même nous, on peut dire. Les supporters, eux, demandent carrément les Bad Gones la démission de John Textor. Et puis, il y a les habitants de Lyon qui, sans doute, se souviennent quand même de ces belles années, de ces 7 ans.
C'est pas si vieux.
7 titres consécutifs de champion de France entre 2002 et 2008. Écoutez, ces Lyonnais au micro de nos confrères du Progrès de Lyon.
On était sûr que ça allait tomber un jour comme ça, parce que ce système de football avec un président et plusieurs clubs, c'était pas possible, c'était pas tenable.
C'est catastrophique, hein, c'est une honte. Hein. Franchement, après le travail de M. Olas, franchement, c'est vraiment inadmissible. Hein.
Un peu triste, un peu surprise aussi et un peu déçue, parce que bon, je comptais prendre mon abonnement, mais au final, ça vaudra peut-être pas le coup. Un peu déçu de cette décision, mais c'est pas ce qu'on voulait.
C'est triste de voir à l'OL comme ça. Donc pour les connaisseurs du foot français et moi qui suis un grand fan de Lyon, en plus on vient de perdre Bernard Lacombe, donc du coup c'est la semaine elle est horrible.
Ils vont faire appel, c'est ce qu'ils ont déclaré, les dirigeants du club. Faut quand même souligner qu'hier, en sortant de la DNCG, alors je ne sais pas si c'était une bravade, mais on a quand même John Textor qui dit...
les nouvelles sont bonnes,
bravache,
globalement.
Tout s'est bien passé.
Lui, John Textor, il vit un peu au pays des oiseaux. Donc non, mais c'est vrai, ce qui est doublement inquiétant pour un club comme Lyon, parce que... On a toujours l'impression qu'un Américain comme ça, capitaliste, un financier, qui sait compter, brasser les dollars, mais en l'occurrence,
Etienne,
pas du tout.
Il y a quand même un exemple. Alors, on a un peu peur de certains investisseurs. On voit la dérive du club des Girondins de Bordeaux aussi. Mais par exemple, d'une certaine façon, McCourt à Marseille, ça fait moins de vagues, mais c'est plutôt sérieux. C'est un Américain.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les gens à la DNCG, d'abord aujourd'hui, donc les règles ont un tout petit peu changé. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez 175 millions d'euros donc, qui n'étaient pas garantis donc, par John Textor, ils vous demandent tout simplement, et ça je pense que n'importe quel auditeur peut le comprendre, d'avoir 175 millions d'euros dans une banque avec la possibilité pour la DNCG de venir piocher dedans et donc que cet argent l'argent soit de l'argent réel. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la DNCG sont devenus aussi beaucoup plus sévères parce qu'il y a eu plein d'exemples de clubs en France qui sont partis complètement à la dérive, comme Bordeaux par exemple. Et ils n'ont pas envie à la DNCG qu'on puisse un jour se retourner vers eux en disant mais vous n'avez rien fait, vous avez laissé cette dérive-là et d'être quasiment pénalement responsable.
Et à un moment, en plus, où le football français souffre du manque de revenus, notamment par la diffusion de son championnat. Est-ce que l'appel peut changer quelque chose, selon vous, Chérif ?
Pas vraiment. D'abord, comme l'a dit Textor, c'est ce qui n'est pas faux. On va attendre déjà les conclusions, les attendus de la décision.
Oui, avant de...
Bon, a priori, on les connaît.
Ça doit être argumenté, oui.
Bah oui, mais l'argent provisionné n'existe pas, donc ça va aller vite. Et puis après, c'est suspensif. Mais après, ça va être la course à l'argent.
Bah on se demande ce qu'il lui reste à vendre, parce que Textor a déjà vendu des morceaux de l'Empire.
Il a déjà tout vendu.
Il peut vendre le stade.
Le stade de Lyon.
Je rigole, mais...
Non, mais c'est triste. Il a vendu l'équipe féminine. Il a vendu
éventuellement tout l'effectif, mais ce ne sera pas suffisant. Juste un petit détail. Malik Fofana, il a estimé entre 40 et 50 millions.
Et Mikotadze, 30.
Voilà.
Mais ça ne sera pas un trop de plus.
Non, ça ne sera pas assez.
On y reviendra de toute façon.
C'est les actifs les plus bankable, entre guillemets.
Parce qu'il y a des incertitudes aussi sur cette qualification en Ligue Europa. Est-ce que Lyon pourra ou non tenir son rang la saison prochaine ? Il faut absolument être en Ligue 1 pour disputer des matchs de Ligue Europa.
Pas du tout. Non, mais ce qu'il faut savoir, donc on a fait un papier cet après-midi sur le site L'Équipe, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'UEFA. Tout le monde, en fait, s'en prend à John Textor. L'UEFA, donc, a des sanctions contre Lyon, donc, qui sont en préparation, qui étaient en préparation. Et si Lyon les acceptait, on va dire, ils pouvaient participer à la Ligue Europa. Mais donc aujourd'hui, il y a une clause suspensive dans cet accord entre Lyon et l'UEFA. C'est-à-dire que s'ils sont rétrogradés en Ligue 2, cet accord ne tient plus et donc ils seront exclus de toute façon des Coupes d'Europe.
Mais dans l'absolu, rien n'empêche un club de Ligue 2 de jouer une Coupe d'Europe.
Si c'est qualifié.
La FIFA est sur leur dos aussi, attention, parce qu'il y a des transferts hors UEFA.
Alors on comprend pourquoi il a voulu faire la paix avec Nasser Al-Khelaifi, mais là je crois qu'il est aux États-Unis.
Ça ne suffira pas. Il y en a qui rigolent peut-être, c'est le stade de Reims qui pourrait être repêché si cette sanction se confirme.
Mais pour l'instant, à vérifier.
Et le RC Lens en Coupe d'Europe, si jamais.
Si jamais Lyon est exclu.
Par le biais des cascades.
Marco Martins, moi j'aimerais savoir. Est-ce qu'on en parle, par exemple, au Portugal ? Est-ce que c'est quand même un des, sans doute, trois grands clubs français de ces dernières années, Lyon ? Est-ce que l'image aussi de ce club, voire du football français, finalement subit une tâche de cette affaire ?
Pas forcément, parce que
les clubs portugais ont des problèmes aussi.
Oui, il y a déjà eu beaucoup de clubs portugais qui ont fermé justement à cause de propriétaires un peu.
La multipropriété là-bas, ça existe aussi.
Gérard Lopez d'ailleurs.
Il n'a pas fermé Boavista. Boavista est descendu en deuxième division, mais ils sont encore vivants, sous respirateur, mais ils sont encore vivants. On s'intéresse surtout à Lyon. Parce qu'il y a Paulo Fonseca, tout simplement, et parce que c'est un club où il y a eu plusieurs Portugais qui sont passés, donc, comme Thiago, exactement, celui auquel je pensais aussi, Thiago Mendes. Donc on en parle et on voit ça presque comme un scandale que Lyon descende, mais par rapport aux explications qui sont données, évidemment, c'est presque logique. Et c'est un peu la descente aux enfers quand même pour Paulo Fonseca, hein, qui venait pour mettre le club en Ligue des Champions, il n'a pas réussi, il y a l'affaire qui le suspend, et là il est en deuxième division. Qu'est-ce que ça va aussi donner sur le banc ? Parce qu'on parle des joueurs, mais si le club est effectivement en deuxième division, qu'est-ce qu'il fait ?
Même sur un plan personnel, bon, c'est triste à dire, mais son épouse en Ukraine en ce moment, tout s'est un peu ligué pour lui pourrir la vie à Fonseca.
Mm-hmm. Mais on se souvient que Fonseca quitte mal Milan. N'est-ce pas, Wolfgang ? Il quitte Milan, après il accepte ce poste. Enfin, il y a eu toute une histoire quand même, cette histoire de lui-même contre l'arbitre qui était absolument scandaleuse. Ah bah il a été puni parce qu'il le méritait.
Oui, c'est pas anormal, évidemment. Mm-hmm.
Il aurait dû rester à Lille.
Peut-être bien, oui, finalement.
C'est l'équipe.
Avant de continuer dans Radio Foot, une pause avec de la musique d'un certain Brésilien, Gabriel da Rosa, et ça s'appelle « Pepa Tupa ». C'est sur la playlist de RFI Musique.
Se alguém tem um sabiá na gaiola, eu não sei quem tem, cara. Verdade, eu não sei quem tem, né?
Pepa Tupá, Pepa Tupá. só se pagar pelo interesse de buscar tudo aquilo que nós não queremos. Vira mundo, virará e jamais aceitará um mundinho assim tão pequeno. Onde não canto sabiá, onde não canto sabiá, onde jamais se ouve o canto do sabiá. Preço maior a se pagar, continuando a retardar transformação crucial e necessária. Vira mundo revirou e já não mais encontrou toda a vida que jaz e não floresce. Onde não canto sabiá, onde não canto sabiá, onde jamais se ouve o canto do sabiá.
Gabriel da Rosa, P. Patupa, et c'est donc sur la playlist de RFI Musique. On continue.
Alves va cruzar, attention, Benfica, Di Maria va chegar, Sheldon bateu, é golo! Benfica!
La filière norvégienne qui permet aux Portugais de mener 1-0. Ce soir, c'était un choc entre Grande Europe et c'est Benfica qui parvient à le gagner 1-0.
Apito acabou, o Benfica ganha o grupo. O Benfica faz história de derrota pela primeira vez. O Bayern Munique ao 14º jogo.
Deux clubs européens du groupe C qualifiés pour le prochain tour. Il faut dire que les Argentins de Boca Juniors n'ont pas pu venir à bout des amateurs d'Auckland et leur nul 1-1 les a donc renvoyés directement à Buenos Aires. Mais le fait intéressant est que le Benfica a ravi la première place au Bayern en battant donc ses Bavarois 1-0. Détail, c'est la première fois, Marco Martins, surtout que le club de Lisbonne remportait une victoire en match officiel sur l'équipe de Munich. On va déjà écouter Bruno Lage, qui est l'entraîneur de cette équipe de Lisbonne.
Et qui connaît bien Textor, lui aussi.
Et qui regrette que personne n'ait parié sur leur victoire.
Il suffit de regarder ce que furent nos dernières confrontations. Mais personne ne croyait que nous allions battre le Bayern. Nous avons échangé ici 4 fois, avant et après nos matchs. On nous a parlé d'une finale contre Boca Juniors. Ensuite, on a inscrit un maximum de buts contre Auckland City. Curieusement, personne ne s'est concentré sur la possibilité qu'on batte le Bayern. Et on les a battus.
Et ils les ont donc battus. Est-ce que c'est vraiment un exploit, Marco ?
Oui, sur l'histoire, évidemment, 14 oui. matchs officiels, une seule victoire, c'est un exploit par rapport à cette saison aussi. Benfica qui s'était incliné en Ligue des Champions face au Bayern. Mais j'ai quand même envie de dire à Bruno Lage qu'il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance hier soir quand tout de même. Parce qu'en première mi-temps, c'est quand même l'équipe B du Bayern Munich qui, en début de match, a essayé de marquer, n'a pas réussi, s'est retrouvé face à la muraille Trubin. Sur une contre-attaque, ils arrivent à marquer par Sheldrup, c'est pratiquement la grosse occasion qu'a eu Benfica, ils ont réussi à ouvrir le score. Et en deuxième mi-temps, avec les titulaires qui sont rentrés, alors là ça a été, excusez-moi le terme, mais j'espère que les Portugais ne m'en voudront pas, un véritable massacre du Bayern. Benfica n'a pratiquement jamais passé le milieu de terrain. Mais il y a eu un gardien qui a été incroyable hier, Trubin, qui a réussi à faire des arrêts impossibles face à Leroy Sané. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si Leroy Sané est déjà avec les pensées à Galatasaray, parce qu'hier, il a tout raté, dont ses duels face à face avec Trubin.
Je pense que s'il joue comme ça à Galatasaray, ils ne vont pas le rater, les supporters. Hein. Mais
Ils ne vont pas le garder, peut-être, même.
Et en plus, la réussite est allée jusqu'au fait que quand Kimmich a marqué ce but magnifique, il y avait un hors-jeu de position d'Harry Kane qui a fait invalider le but. Donc tout était, toutes les planètes étaient alignées pour Trubin, qui a été un véritable mur, effectivement. Bon, le Benfica, sur une saison relativement moyenne, parce que c'est plutôt le Sporting qui a été l'équipe portugaise de la saison.
Ils les ont embêtés jusqu'au bout,
pratiquement. Qui a fait le doublé, qui a marqué les esprits. Bah, le Benfica, là, ils ont en partie peut-être mis un moment mémorable dans le cœur de leurs supporters avec cette victoire. Mais sur la suite, je pense quand même que le Bayern est armé pour aller peut-être plus loin que Benfica.
On va parler du Bayern. Un petit mot encore sur ce Benfica.
Un moment mémorable dans l'histoire de Benfica. Benfica quand même
pour les supporters.
Des grands titres, donc c'est quand même qu'une victoire de poule dans une compétition que.
Oui, mais c'est la première. C'est symbolique.
C'est symbolique,
vous le
c'est
savez,
symbolique parce que c'est
Etienne
le Bayern.
On s'y attache. Au symbole.
Je pense que Benfica est capable de grands exploits quand même encore aujourd'hui.
Donc même dans la compétition à suivre.
Oui, bah, toute façon cette compétition, elle peut livrer quelques surprises. Il y fait presque aussi chaud qu'à Paris en ce moment. C'est extrêmement dur donc pour les organismes. Les équipes européennes arrivent un peu lessivées en fin de saison, donc on va voir un peu comment va se passer la suite, mais on peut avoir des surprises.
Chérif, vous, sur la prestation du Benfica, sur cet attaquant norvégien, là, ce buteur
Norvégien ou danois ?
Norvégien.
On comprend pourquoi la Norvège a battu l'Italie, finalement.
Offensivement, ils ont une super génération.
Une occasion.
Norvégien, le but. Hein. C'est Orsnes qui est joué latéral droit, encore une adaptation un peu farfelue de Bruno Lage, et qui centre, et c'est Sheldrup qui reprend.
Après, moi, j'ai trouvé le Benfica, assez assuré dans ses limites. Ils le savent. De toute façon, le Bayern était au-dessus, mais ils font pas de fautes. Je veux dire, ils ont pas pourri le jeu, ils ont pas subi de pénalty, parce que quand on subit comme ça, au bout d'un moment, les équipes entre guillemets plus faibles, elles finissent par craquer, par faire des fautes. Moi, je les ai trouvés très disciplinés. Ils ont su garder la tête froide. Et c'est surtout, on va quand même parler un peu de la suffisance du Bayern, quand même, qui on met l'équipe A prime, équipe B, équipe A prime. Allez, bon, peu importe.
Il y avait en
première
mi-temps.
Non, mais je suis d'accord.
On peut pas dire que les saisons sont interminables, que les joueurs jouent tous les matchs,
qu'ils sont pas fatigués.
Et critiquer un entraîneur qui, à partir du moment où il est qualifié, fait tourner un petit peu, ça paraît quand même assez logique.
Eh ben, on va l'entendre, Vincent Kompany, le Belge entraîneur de cette équipe du Bayern.
I think we're here to win the tournament. That's the goal. Like I said before,
nous sommes ici avant tout pour gagner le tournoi, c'est notre objectif. Alors nous respectons Benfica et félicitations à eux pour ce résultat. Je suis certain que toute équipe qui bat le Bayern donne une signification particulière à cette victoire. Mais notre priorité désormais, c'est de mettre ce match de côté, tirer les enseignements de la première période, conserver la dynamique de la seconde et préparer le prochain match. Pour être honnête avec vous, ce match est déjà derrière nous.
Le tableau de la suite de la compétition est-il faussé d'une certaine façon, Patrick Juhar ? Alors j'explique, parce qu'en huitième de finale, c'est pas encore défini. Ah si, ils se retrouveront face à Flamengo. Le Bayern. D'ailleurs, je crois qu'ils ont des maillots. Vous vous souvenez de la Coupe du Monde 2014 quand l'équipe d'Allemagne avait un maillot qui ressemblait beaucoup à celui du Flamengo. Donc, ça doit leur dire quelque chose. Rouge et noir contre rouge. Mais surtout, ils pourraient se retrouver en quart de finale face au Paris Saint-Germain.
Ouais, ce serait une revanche de la fameuse finale du Final Eight de l'année Covid.
Il y en a déjà eu.
Moi, je pense que ça va être très intéressant parce que sur le premier tour, je trouve que Flamengo est la meilleure équipe sud-américaine du tournoi dans la qualité de jeu. Parce que là, on parlait de Boca Junior qui produit un football très rudimentaire, un peu brutal.
Et pas très bien en plus.
Et qui a pas volé son élimination. Pardon pour les Argentins et leurs amis. Mais là, c'est un vrai test pour le Bayern. Contre une équipe qui est physiquement plus en forme qu'eux, qui a un.
On les voit,
pic,
hein, les clubs brésiliens,
qui
pour
a
l'instant,
un
3
pic
sur
de
4
forme.
Qualifiés.
Peut-être aussi que les joueurs sont plus habitués à ces climats, à ces températures que les
Allemands.
Ils
sont aussi en milieu de saison, eux.
Voilà. Donc ils sont dans un pic, alors que le Bayern est plutôt en pente descendante. Donc, si le Bayern passe ce cap-là, je pense que ça va être intéressant pour la suite.
Chérif, ça fausse d'une certaine façon le tableau qu'on imaginait ou pas ?
Non, il n'y a pas de...
On n'imaginait pas le Bayern deuxième de son groupe ?
Non, mais surtout, c'est qu'en fait... Il y a le Bayern et le Real. Je mets de côté, évidemment, le PSG qui est champion d'Europe et tout. Faut juste insister sur le fait que... Le Bayern est sur au niveau de l'état d'esprit, c'était la Ligue des Champions, la finale c'était chez eux, donc il y a une insatisfaction absolument dingue. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu chauffé pour Compagnie. Ça va, il est champion d'Allemagne, donc c'est bon, on lui pardonne.
Et il y avait cette finale de Ligue des Champions. On est là pour gagner le tournoi, comme l'affiche le Real.
Champion d'Allemagne avec presque 100 buts marqués sur la saison de championnat, donc c'est pas
mal. Non, mais
c'est
bien. Non, mais c'est bien. C'est que sauf que la finale de Ligue des Champions, elle était à l'Allianz Arena.
Oui, c'est frustrant, quoi.
Voilà, et il y a aussi le Real, année blanche, saison blanche. Pareil,
merengue, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est les candidats déclarés. Donc, même s'ils ont fini deuxième...
Autre match, donc, hier dans ce groupe. La deuxième équipe africaine, l'Espérance de Tunis, est celle qui rentre à la maison sèchement battue par les Blues.
George. Can have a crack. Tyreek George.
Yes.
Preps in.
Yes.
And there is the icing on the cake, right at the end. Tyreek George gets the goal. Big assist from Ben Saïd, the keeper.
Chelsea s'impose 3-0 face à l'Espérance. Chelsea qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Affrontement face à un autre club européen, ce sera face à Benfica.
Marco Martins, deux mots sur Chelsea, puisque c'est le prochain adversaire du Benfica. Alors, ils avaient été battus ou surpris, je ne sais pas, par Flamengo, dont Patrick chante les louanges, là. Mais là, ils ont été sérieux. Ils savaient que... Parce que l'Espérance pouvait aussi se qualifier.
Oui.
La place se jouait entre deux.
Ils avaient gagné un match, donc ils pouvaient. Ouais.
Non, je pense que déjà, ça a été... Faussé, hein. Oui. Ça devait être Flamengo, le deuxième de ce groupe. Hein. C'était quand même plus abordable pour Benfica qui voulait une petite revanche face à un club sud-américain. Non, mais Chelsea, c'est un club qui fait vraiment des très hauts et des très bas sur les compétitions. On l'a vu en Ligue
en
Europa.
Ligue.
Ils ont été menés en finale face au Betis pendant pratiquement tout le match. Et puis après, ils se réveillent et ils en marquent 4 ou 5. Donc cette équipe, elle est un peu. Je la comprends toujours pas avec tellement de joueurs. On parle que Nicolas Jackson serait sur le départ alors qu'il est titulaire indiscutable de cette équipe.
Là, il était suspendu. Hein,
mais... Donc, c'est assez particulier, cette équipe. Donc, Benfica, pourquoi pas, peut surprendre s'ils jouent à nouveau comme face au Bayern et qu'ils ont surtout un Troubine qui soit incroyable dans les cages.
Ça peut
passer. Et ensuite, après, il y a un petit match face à un club brésilien, soit Palmeiras ou Botafogo. Donc
on parle un peu de Pedro Neto, cher ami.
Pedro Neto, il est intéressant sur son côté gauche. Soit côté gauche, soit côté droit.
Ouais,
moi,
ça,
je préfère
sur
le côté gauche, en piston. C'est l'unique Portugais qui est assuré de rester à Chelsea. Ils sont trois et c'est l'unique, en tout cas, qui est titulaire indiscutable.
Quel joueur ?
Non, il y a... Chelsea,
non, alors moi,
un...
je voulais parler de l'Espérance de
l'Espérance,
Tunis, Patrick.
L'Espérance, qui était,
parce que...
rappelons-le, pour ce match privé de son maître à jouer, Youssef Belaïli, suspendu pour un carton stupide, accumulation de cartons jaunes stupide pour une simulation grossière.
Alors que c'est vraiment, il avait montré
ça les a un petit peu, ça leur a, dans tous les sens du terme, coupé les ailes, quoi. Et ils n'ont eu aucun tir cadré sur la partie. Donc ça montre qu'ils n'ont pas existé offensivement. Et en plus, défensivement, ils ont plutôt bien tenu le coup. Et manque de chance, les trois buts, ils les prennent tous les trois dans les temps additionnels des deux périodes. Les deux buts dans le temps additionnel de la première, un relâchement où ils, à force de plier sans rompre, ils finissent par rompre. Mmh. Et pareillement, en fin de match, on ne peut pas leur en vouloir vraiment. Ils ont gagné un match, ils y ont cru jusqu'au bout. Bon, ça rappelle un peu le parcours qu'avait fait la Tunisie, équipe nationale, à la dernière Coupe du Monde, finalement.
Mmh. Ouais. Bon. Étienne, qu'est-ce qu'on peut dire sur, finalement, là on en est à quatre groupes définis. Est-ce qu'il y a des grosses surprises? Est-ce qu'une certaine logique est respectée? Que peut-on en dire à mi-parcours de ces qualifs?
Globalement, il y a une certaine logique respectée et... heureusement pour la FIFA, quand même quelques petites surprises, parce qu'il ne faudrait pas donc que ce soit uniquement les équipes européennes qui aillent au bout de la compétition, et ce qui prouverait que ça n'est qu'une Ligue des Champions de plus qui a été organisée de manière un peu artificielle par la FIFA. Donc évidemment, la seule raison donc, invoquée par la FIFA pour l'organiser, c'est que le football est mondial, tous les continents ont droit d'avoir aussi des grandes compétitions. Donc évidemment... et même pour nous, et c'est souhaitable que tous les continents soient représentés un petit peu vers la fin aussi.
Je pense qu'il y a quand même deux blocs qui se détachent nettement, c'est l'Europe et l'Amérique du Sud.
Mmh. Là, rien de nouveau sous le soleil.
Et là,
quand
ça
même.
Reste, c'est un
enchantement.
C'est un, ça a pas changé depuis 50 ou 60 ans.
On
après, il y a
l'Inter Miami.
Alors
quand même,
voilà, il y a deux. Pour moi, il y a un point. Bon, il y a une première. C'est pas une surprise, mais c'est une grande performance que l'Inter Miami sorte du groupe. Mmh. Et puis, il y a peut-être la surprise en téléchargement, c'est les Mamelodi Sundowns qui, en cas de bons résultats contre Fluminense, ça peut passer, ça peut faire une qualif africaine.
Ce que tu dis est vrai sur les sélections nationales, mais en termes de clubs, on n'a pas vraiment de visibilité. Et la bonne surprise, c'est que les clubs sud-américains soient au rendez-vous. Parce que ça, on n'en était pas sûr. Les clubs sud-américains, on pille leurs joueurs depuis suffisamment de temps pour savoir que les bons, normalement, devraient être en Europe.
Et c'est ça aussi la bonne surprise. Les clubs brésiliens, par exemple, et on sait que c'est le pays qui exporte le plus de joueurs, mais finalement, et même avec certains anciens, parce qu'on a vu les Thiago Silva et autres,
ils sont compétitifs. Ou Arojo qui sont revenus dans les clubs.
Ils sont compétitifs, c'est une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ce niveau. Puis surtout
Certaines victoires ont été fêtées là-bas, un peu comme le Sénégal fut un temps fêté sa victoire. Botafogo contre le Paris Saint-Germain, c'était incroyable. Et puis l'autre club, le Flamengo sur Chelsea. Là-bas, il y a une vraie aura autour de cette compétition.
Une fois de plus, c'est toujours l'idée qu'on a toujours défendue, l'universalité du foot. Elle peut être factice, comme l'a rappelé Étienne, on est d'accord. Mais le fait que des équipes africaines et des équipes sud-américaines affrontent les grandes équipes européennes, quand il y a match, le match de Al Ahly, c'est contre Porto, le 4-4. C'est un vrai match de foot. C'est une équipe égyptienne. Moi, je voulais savoir un peu ce que donnait le leader du championnat égyptien. Contre Porto, ils ont été à la hauteur. Porto, mais ils sont éliminés, malheureusement.
Porto, les Dragons rentraient à la maison.
4-4.
La saison n'était pas géniale. Et donc, nous continuerons à suivre cette compétition dans Radio Foot. Mais place à ceux qui pratiquent le football pour le plaisir.
Milan, a city of fashion, art and football. And now there's a team that unites all these elements.
L'AS Velasca, véritable ovni dans le monde du football.
L'AS Velasca.
L'AS Velasca is a club that brings football and art together.
Goal! Goal del Velasca! Goal del Velasca! Goal del Velasca! Tentativo di tiro! E la vantaggio del Velasca! Che gol Covino! E che gol che ha fatto Covino! 2-0! 2-0! Game, set, match! E c'è il primo vantaggio del Velasca!
La passion du football pur est loin des intérêts économiques. Ceci n'est pas un club pour faire fortune, n'est-ce pas, Wolfgang?
Absolument.
Oui, on peut. Vous pouvez présenter vos comptes à la DNCG.
Un club qui fait de l'art.
Voilà, justement, pour vivre d'abord au quotidien le foot loisir. L'AS Velasca, donc club très particulier, en 9e division de la région de Milan, et sans doute fier de l'être dans cette 9e division.
Ah, on est très content et maintenant c'est officiel, je crois que tout le monde l'a remarqué, on est le deuxième club de Milan. Après cette finale, nous on était très contents. Voilà.
après la dernière finale de Ligue des Champions.
Oui, on l'a suivi avec intérêt.
Oui, alors vous êtes le président fondateur de ce club. L'originalité de votre club, c'est tout n'est pas pour le ballon sur la pelouse, mais il y a aussi des maillots originaux, il y a des poteaux de corner originaux et finalement des artistes qui vous entourent, qui ne sont pas forcément des artistes du ballon.
Absolument pas. La plupart des artistes, donc tout est créé par des artistes. C'est un vrai club qui joue en fédération, qui est en 9e division de la Fédération italienne de football. Et tout est créé par des artistes. Donc, en effet, les maillots...
On entendait la musique, là.
La musique, l'identité visuelle, sonore, les accessoires. Et tous ces objets rentrent sur le terrain. Donc, les joueurs jouent avec des maillots qui ont été dessinés tous les ans par un artiste qui...
Aucun joueur n'a le même maillot, donc...
qui s'improvise sponsor.
Oui, vous êtes sponsorisé en plus.
Et on est sponsorisé non seulement par un artiste par an, et aussi par le coq sportif qui nous accompagne depuis 8 ans.
Mm-hmm, voilà. Ouais. Donc c'est un record, vous m'avez dit.
C'est un record, on est après le Saint-Étienne. Saint-Étienne, je crois que ça a dépassé 20 ans, 22 ans, et nous, là, on dépasse l'Ajax. Comme quoi, on n'a pas besoin de gagner. Hein, c'est,
des matchs.
On s'est amélioré. Hein, ça fait 2 ans qu'on monte sur le podium sans jouer les playoffs. Donc ça, c'est une frustration à l'italienne, mais ça va. On
vous
continue.
Avez terminé 3e de votre championnat.
Mais l'écart entre les deuxièmes et nous était trop grand pour jouer les playoffs. Mm-hmm. Donc on trouve, voilà.
Vous êtes quand même sur le podium. L'aventure dure depuis 10 ans. Alors, vous nous le racontez régulièrement. Vous faites en plus des incartades. En 2019, vous êtes allé jouer à Soweto, en Afrique du Sud, avec des maillots, effectivement, de tonalité africaine très beaux. Et là, samedi prochain, vous allez jouer près de Venise. Racontez-nous, vous allez jouer à Casarsa. Et j'aimerais bien que vous expliquiez à nos auditeurs pourquoi.
À Casarsa della Delizia. Nous allons fêter nos 10 ans parce qu'en fait, le Velasca n'est pas le premier club qui a mélangé l'art et le ballon et qui a vu dans le football une forme d'art. Un des premiers qui a essayé, sans succès, de créer un club en œuvre d'art totale, on va dire, c'était Pier Paolo Pasolini.
Le cinéaste italien.
Le cinéaste, poète,
décédé il y a quelques
décédé,
temps.
Oui. Et pendant, quand il était jeune, il jouait dans ce club qui a aujourd'hui 101 ans. Et après-guerre, il décide de transformer le club et de l'appeler Società Artistico Sportiva, Société Artistique et Sportive. Et son objectif, c'était que l'art finance le football. Et ça a été un échec. Donc moi, je suis très content de dire qu'on a réussi ou Pasolini a échoué. en tout cas, on est arrivé à nos 10 ans. Donc on va jouer contre ce club qui existe encore, qui est un club amateur qui joue quand même dans 4-5 divisions au-dessus de nous et qui a eu dans son passé Vendrame, qui est un peu le George Best italien, et récemment Brian Cristante, qui joue actuellement à la Rome et qui est passé par Atalanta, par le Milan AC. Donc, c'est pas rien. Et c'était important pour nous de boucler la boucle et de jouer contre le club de Pasolini. Et de perdre, hein, parce qu'on va perdre, c'est sûr. Eux, ils rabaissent le niveau, ils me l'ont déjà dit.
C'est un club romain, non ?
Le Casar, ça ?
Ouais.
Non, du Frioul.
Ah, ok.
Pasolini, il meurt donc à Ostia, etc. Mais c'est juste parce qu'il y a quelque chose que peu de personnes savent, et moi, je l'ai découvert il y a peu de temps. Pasolini, on lui met un maillot apparemment de la Rome, c'est pas très sûr ça,
ouais,
sur son cercueil et on l'enterre avec.
Ah d'accord.
Ça, c'est, et les photos le prouvent, sauf qu'elles sont en noir et blanc, donc on n'arrive pas à savoir de quelle équipe il s'agit.
Voilà. Wolfgang, pourquoi y aura-t-il l'ombre ou le fantôme un peu d'Ancelotti autour de cette rencontre ? L'anecdote est assez savoureuse.
C'est incroyable.
Ancelotti lié à Milan, hein, très lié à la ville de Milan et au Milan AC.
Et parce que Pasolini tournait son film Le Salo, les 120 jours de Sodome, en même temps que Bertolucci qui tournait Novecento.
1900,
ils avaient un peu un accrochage, ça se passait pas très bien entre eux, donc ils se sont dit on va régler ça en jouant
sur
un match amical,
un terrain de foot.
Mais Bertolucci, il savait que Pasolini était fou de foot. Donc il a dit, bon ben voilà, les règles, on va... parce que Pasolini voulait mettre ses règles, on va jouer qu'avec l'équipe technique et artistique du film. Et Bertolucci, il dit, non, moi je ne peux pas perdre contre Pasolini. Donc on va chercher des joueurs et on va faire semblant que ce sont des machinaux ou des électros du film. Ils ont trouvé plusieurs gars, dont un petit gars comme ça, et qui a marqué apparemment un but. Personne ne savait qui c'était, mais dans la photo de groupe, on voit que le mec, il a un sourcil un peu plus élevé que l'autre. Il est pas. Et il se trouve que ce gars-là, c'était Ancelotti. Ancelotti a joué ce match. Et
il avait 16 ans, 17 ans.
15 ans, je crois. Tout jeune. Il semble. Ouais. Mm-hmm.
Et il a joué ce match, et c'est un journaliste, il y a quelques années, qui lui montre la photo, parce que ce mythe planait. Ils disent, mais c'est vous ? Et lui, il répond, oui, c'est moi. Voilà.
Non.
Mais Ancelotti, il était aussi apparu dans une comédie des années 80 sur le foot, L'Allenatore con il pallone.
Ah, c'est vrai.
Il jouait un footballeur, en fait, il jouait son propre rôle à l'époque s'il avait 25 ans. Quoi.
Mais Ancelotti va finir au Velasca, c'est quasiment sûr. c'est... Donnez-nous encore 10 ans.
Mais là il ne sera pas présent au match.
Alors, je ne pense pas, je ne sais pas, parce que tout est possible.
Velasca, il réside au Brésil, je crois.
Oui, mais le Velasca, ouais. c'est que des choses improbables, ce sont des rêves. Donc, on sait pas. Même moi, maintenant, au bout de 10 ans, je suis surpris par le Velasca. Il y a des choses magiques qui ont lieu, et c'est ce que je cherche et on cherche.
Capello est un collectionneur d'art. Hein.
Alors, Capello, là, on ne peut pas montrer, mais Capello a un maillot, collectionne aussi les maillots du Velasca.
C'est vrai?
Absolument. Et donc
c'est un collectionneur d'art.
Voilà. Il collectionne une de nos artistes, et donc c'est pour ça qu'il l'avait.
Eh ben voilà. Mais sur les terrains de football, il n'aimait pas beaucoup les artistes quand même. plutôt les gens rugueux.
Mais il invitait les gens, c'est intéressant, ces joueurs, il les invitait à collectionner de l'art.
Ouais, exactement,
et certains l'ont suivi, dont Montella.
Grand amateur de peinture, exactement. Ouais.
En tout cas, c'est une histoire. Marco, il y a des clubs comme ça que vous connaissez au Portugal?
Ça commence à se faire, mais ce ne sont pas des petits clubs, en fait. Même les grands clubs au Portugal essaient justement de mettre un peu plus d'art dans leur maillot, dans le maillot, le troisième maillot, faire quelque chose, en fait, pour justement que les ventes de maillots, les ventes d'objets, de goodies, comme on a l'habitude de dire, augmentent. Donc, c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans les mœurs, mais pas au point du club.
Là, vous avez poussé le curseur très, très loin. Donc...
Après, on devrait aller jouer un match. Portugal, on va.
Vous pourriez, parce que Brian Cristante, il est passé par Benfica.
Benfica aussi. Ah ben voilà, j'avais oublié de citer Benfica.
Wolfgang, au mois de janvier, vous avez eu la chance d'aller au show aux Antilles, en Guadeloupe. Vous étiez dans les tribunes le jour où a été baptisé le stade de Sainte-Anne du nom de Marius Trésor, qui était lui aussi là sur la pelouse avec ses vieux copains. C'était une aventure qui correspondait aussi à l'esprit Velasca, ce voyage.
Absolument, et ça justement, ça fait partie de la magie du Velasca, parce qu'on a été invité pour inaugurer le stade de Marius Trésor, et nous avons joué le premier match officiel, c'est-à-dire un match amical contre la Juventus de Sainte-Anne le jour de la Saint-Marius, le lendemain du match de gala. Et surtout, en fait, on a fait le déplacement pour faire des pâtes. Tous mes joueurs avaient 1 kg de farine, une boîte de tomates, et ça a été magnifique. On a fait des pâtes le soir de la Saint-Marius, et tout le monde s'est mélangé la pasta fatta in casa. Mm-hmm. Et c'est quelque chose de magnifique.
Mm-hmm. Et Marius Trésor a apprécié le cadeau.
Oui, énormément. Et surtout, alors il y avait qui? Il y avait aussi Alain Courriol qui, lui, nous faisait des tiponches. Donc ça, c'était...
c'était... Je connais bien Alain Courriol, il les fait très bien.
Exactement. Donc voilà, mais on a tenu le rythme. On a quand même perdu 4-1 notre match. Faute au tiponche, j'imagine.
Et sans doute.
Mais sans doute. Et non, c'était magique. C'était
ça vous permet comme ça d'aborder des anciennes gloires, d'être présent sur des événements, mais d'une manière différente.
Oui, en effet. On a tous commencé au même niveau. On a tous commencé dans la boue, etc. Donc en fait, avec le Velasque, il y a une sorte de rêve qui se met en place, d'un cercle qui se referme, c'est d'une boucle qui se boucle, c'est ça qui est incroyable. Et on était justement le jour du gala, et on parlait avec Gires comme si on parlait avec un de mes joueurs à propos de... Bon, lui, il nous parlait de comment l'Italie avait perdu en 84, mais bon, voilà. Mais sinon, c'était très drôle. Ouais. Et c'est magnifique parce qu'il n'y a pas de différence. Et ça, c'est la force du football.
Mmh. Et l'ambition sportive, elle commence un peu à germer au sein du groupe.
C'est une très bonne question, et je vais faire très attention à ma réponse parce qu'on nous écoute en Italie.
Parce qu'après, vous allez monter.
Ça fait 2 ans que nous sommes sur le podium, et c'est sûr qu'on voudrait essayer de...
Après, ça va devenir sérieux quand on commence à monter.
C'est déjà sérieux, c'est très sérieux. Ouais.
Ça sera l'occasion de revenir dans Radio Foot alors. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Wolfgang et donc son AS Velasca, que nous aimons beaucoup ici à Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir commenter aujourd'hui cette actualité sportive un peu triste avec cette histoire de l'Olympique Lyonnais. Rendez-vous demain dans le même studio pour Radio Foot. Merci à tous.